Tu étends ta main avec puissance, tu me saisis, tu fends la mer. Quel merveilleux chant, quel acte de rédemption quand les montagnes ont fui devant l'Éternel et devant le Seigneur des armées. Et c'est ce qu'on va rappeler ce matin dans cette Messie, dans cette présentation du Messie dans la Pâque. Alors, je m'appelle Josué Turnil et je suis missionnaire avec Juifs pour Jésus et je suis très heureux de partager ce dimanche matin parce qu'aujourd'hui nous commémorons que Jésus est ressuscité. Amen. Et un jour, vous et moi, on va participer, ce sera notre tour de participer à cette résurrection. Et quand nous le verrons, nous serons comme lui, transformés à la lumière de son regard. J'ai hâte d'y être. Mais pour comprendre la résurrection, il faut discerner la mort du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, on va faire un petit voyage à travers le temps et l'espace. On va découvrir la culture et l'histoire du peuple juif. Mais au-delà de tout repas traditionnel qu'on va vivre ce matin, j'espère que vous allez discerner la mort du Messie, la résurrection du Messie et la promesse de son retour. Alors, est-ce qu'on peut imaginer pour un moment qu'on n'est pas à La Chaux-de-Fonds ce matin et qu'on est à Jérusalem et que vous êtes les invités de Rabbin Cohen, sa femme et ses enfants pour un repas de Pâques. C'est la première fois qu'ils ont rencontré des chrétiens, qu'ils ne connaissent rien sur le christianisme et donc vous êtes sur votre 31 et vous êtes, vous devez veiller à votre comportement et à ce que vous dites, mais vous êtes curieux quand même, et donc vous posez la question aux enfants, qui est le héros, le personnage principal de la Pâque? Que pensez-vous que ces enfants, les enfants du rabbin Cohen vont répondre si vous dites, qui est le héros de la Pâque juive? Que vont-ils dire? Moïse, certainement, après avoir béni l'Éternel, mais si vous posez la même question à mes enfants, qui sont juifs de leurs deux parents, mes enfants vont vous dire, Jésus est le héros de la Pâque. Donc, on va découvrir ce chemin ce matin, et je vais commencer avec juste deux ou trois versets de la Bible. Dans quel livre de la Bible on va découvrir la Pâque juive, à votre avis? Comment? Exode, très bien. C'est pour ça que je vais lire de l'Évangile de Luc. Alors, vous savez, chaque fois que j'ouvre les pages du Nouveau Testament, je découvre un livre profondément juif. Donc, pour découvrir la Pâque juive, on va lire dans l'Évangile de Luc. Luc 22, versets 7, versets 8 et versets 13. J'imagine que vous les connaissez bien, ces versets, mais peut-être qu'on va les découvrir sous un autre angle ce matin. Le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque pour que nous la mangions. » Verset 13, ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. Alors, la Pâque est une fête qui dure 8 jours. Pendant ces 8 jours, nous ne mangeons rien qui contient du levain ou de la levure. Pourquoi pas de levain ou de la levure? Vous le savez certainement, dans les Écritures, le levain est utilisé comme symbole du péché. Donc symboliquement au moins, on veut briser ce cycle quotidien du péché dans nos vies en nettoyant toute la maison. Donc c'est un travail un travail énorme de nettoyage de la maison de fond en comble, de haut en bas. Chaque chambre, chaque pièce est passée au peigne fin. On lève les tiroirs, on les vide et on utilise une nappe pour nettoyer à l'intérieur pour être sûr qu'il n'y a pas de traces de levain. Donc cette préparation de Pâques commence 6 semaines avant Pâques. C'est le travail en général de la maîtresse de maison. C'est bien. Mais qui est-ce que Jésus a envoyé pour préparer la Pâque dans le passage que je viens de lire? Qui? Deux hommes. Pourquoi est-ce que Jésus a envoyé deux hommes pour faire le travail d'une femme? Eh bien, Jésus savait que dans la tradition juive, c'est l'homme qui est, en tant que chef spirituel de la maison, responsable de préparer la Pâque et toutes les fêtes. Ainsi, si vous réfléchissez, ça doit être l'homme qui doit faire ce nettoyage intense 6 semaines avant Pâques. Amen? Wow, que la moitié d'entre vous sont enthousiastes à cette idée. Ne vous inquiétez pas, mes frères. Nos rabbins ont trouvé un échappatoire formidable. Il explique ainsi, c'est vrai que la maison est propre et prête pour le repas de la Pâque, mais la femme, peut-être dans sa faiblesse, sa fragilité, a laissé quelques miettes quelque part dans la maison. Et c'est à l'homme d'en découvrir ces miettes qui ont été laissées. Donc il va faire un peu de nettoyage et il va prendre une bougie pour regarder dans tous les coins de la maison. Il va aussi prendre une serviette, une cuillère en bois et une plume pour chercher ces miettes. On appelle ça en hébreu « bedikat hametz », qui veut dire la recherche du levain ou le fait de retirer, de faire disparaître le vieux levain. Où peuvent être ces miettes? C'est un contrôle qui est effectué justement la veille de Pâques pour être sûr qu'on est prêt. Où peuvent être ces miettes? Elles peuvent être n'importe où, dans la cave, au frigo, sous le canapé. Il peut passer plusieurs heures à chercher, mais sa femme est si bonne, elle l'aime tellement qu'elle a caché les miettes exactement là où elle les a cachées l'année dernière. Voilà, vous comprenez. Donc finalement, il retrouve l'emplacement des miettes et avec une main ferme, il les balaye dans la cuillère en bois avec la plume. Ouf, c'est du boulot ça. Hein. Alors, que représentent les miettes? Le péché, c'est ça. Et donc, on va pas les toucher, et dans les communautés les plus traditionnelles, on va amener ce petit paquet de levain à la synagogue. Il y a un grand feu de joie dans la cour. Chacun va jeter son petit paquet de miettes dans les flammes. Il va rentrer chez lui et il va rassembler sa famille autour de lui et va dire « Maintenant, j'ai nettoyé ma maison de tout levain. » Mais juste pour être sûr, il va rajouter une petite prière. Que toute trace de levain que je n'ai ni vue ni retirée soit considérée comme nulle et comme non avenue et comme la poussière de la terre. Amen. C'est bizarre cette petite tradition, non? Vous savez que l'apôtre Paul a grandi religieusement juif et il connaissait bien ces traditions. D'ailleurs, je crois qu'il en fait allusion à cette tradition de Bedikat Hametz. Rappelez-vous ce que ça veut dire, faire disparaître le vieux levain. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6, 7 et 8, il dit ceci, 1 Corinthiens 5, 6, 7 et 8, « Il n'y a pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malfaisance et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire, l'apôtre? Est-ce qu'il nous demande de prendre une plume et faire toute cette tradition des 4 amètes? Non, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que tout comme des miettes peuvent se cacher dans une maison, le péché peut venir, comme des petites miettes, s'aimer leur grain dans nos cœurs, dans nos pensées. Et c'est le moment, il dira plus tard, et c'est le travail que chacun, chacune doit faire ce matin, que chacun s'examine soi-même, d'ouvrir nos cœurs, nos pensées à l'Esprit Saint pour qu'il puisse traiter ses envies, ses haines, ses jalousies, ses colères qui s'amassent au long de l'année. Et l'Esprit Saint est plus doux, c'est un gentleman, il utilisera une méthode plus douce que la plume, mais il faut quand même confesser nos péchés. Et si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors maintenant, c'est le moment de préparer la Pâque, parce que la maison est vidée de tout le vin et toute levure. Donc on va allumer les bougies et je vais inviter Gaël. Alors est-ce que tout le monde a reçu la petite brochure, le Messie dans la Pâque? On va en faire usage ce matin. Donc Gaël va nous lire la bénédiction en hébreu, en allumant les bougies, et t'as pas besoin de micro. Et les femmes vont répéter la prière avec elles en français, qui est sous la page bénédiction sur les bougies. Donc vas-y, Gaël.
Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kidishanu Bemitzvotav Vetzivanu Lehadlik Nerot Shel Pesach.
Amen.
Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu,
toi de lumière qui nous sanctifie par tes commandements et nous avons donné la vie et le juge de la part.
Merci Gaël. Amen. Alors, c'est approprié, c'est en général la femme, la mère du foyer qui allume les bougies de Pessah, parce que cela nous rappelle que le Messie, la lumière du monde, doit venir à travers une femme, dont il est fait allusion déjà en Genèse, mais aussi en Ésaïe, chapitre 7, verset 14. « Voici, la jeune femme sera enceinte, elle enfantera un fils, lui donnera le nom Immanuel, Dieu avec nous, une lumière pour allumer les nations et la gloire de mon peuple » Israël. Alors, je me suis mis un kittel, qui est un mot yiddish qui veut dire tunique blanche. Les hommes portent, en général, on porte des habits neufs pour Pâques. On s'achète des habits neufs et on porte des habits neufs. Les hommes ont l'habitude de couvrir leur tête devant Dieu comme signe de respect. Et la couleur blanche, le blanc est symbole de la royauté dans les temps anciens. Donc ce soir, l'hôte de la maison est comme un roi et un prêtre devant Dieu représentant sa famille. Nous allons alors, Pessah, ce n'est pas un simple culte ou une réunion familiale qui peut durer une ou deux heures. C'est un véritable banquet, c'est un festin qui peut durer entre 4 et 5 heures. Florence m'a clairement dit que j'ai pas 4 ou 5 heures. Donc, elle m'a dit de le garder au-dessus de 3 heures. J'espère que ça ira pour tout le monde. Alors, pendant ces 4 ou 5 heures, chaque adulte va prendre sa place à table et va faire quelque chose que nous avons appris quand on était jeunes de ne pas faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait quand on est à table? Qu'est-ce qu'on ne fait surtout pas? Qu'est-ce qu'on a dit aux enfants? Alors, les enfants, ne faites pas ceci à la maison, mais on doit s'incliner vers le voisin, s'appuyer avec les coudes sur la table et boire et manger ainsi sur des coussins. Parce que dans l'Antiquité, l'esclave n'avait pas le droit de s'allonger et prendre son aise à table. Et donc, on pratique la liberté en faisant comme et faisaient les hommes libres à l'époque, les maîtres. Les esclaves devaient manger debout ou prêts à servir leur maître. Alors, pendant ces 4 ou 5 heures, on va suivre une liturgie spécifique qu'on appelle Seder. Qu'est-ce que c'est que Seder? C'est l'opposé du Shni. C'est un joli mot suisse que j'ai appris ici. Alors, vous n'aimez pas du tout le chni, c'est ce que j'ai appris, mais même j'aime beaucoup le mot chni en tout cas. Mais seder, ce n'est pas juste l'idée de mettre un ordre là où il y a du désordre. Seder, c'est un mot qui dit l'ordre a un but, un objectif. Et quel est le but du seder de Pessah? C'est de nous expliquer le plan de rédemption de Dieu. Donc ce n'est pas juste un ordre aléatoire comme ça. C'est vraiment, on va nous amener, ces étapes vont nous amener à comprendre le plan de rédemption de Dieu. Ce plan, ce seder est consigné dans ce livre que nous appelons Haggadah. Haggadah, c'est un mot araméen qui veut dire conte, narration, légende. Et c'est pour ça que je vous ai distribué ces petites mini-agadotes ce matin, le petit brochure qu'on va utiliser. Donc pendant ce banquet, on va soulever nos coupes 4 fois et boire du fruit de la vigne. Premièrement avec la coupe Kiddush, suivie par la coupe des plaies. C'est après la deuxième coupe, seulement après la deuxième coupe, que l'on mange. Qu'on mange le meilleur repas de l'année. C'est un peu comme Noël chez les chrétiens, et la famille est réunie à table. Et après le repas, on revient au seder pour continuer avec le point culminant de toute la soirée, la coupe de rédemption, Kos Yeshuot. Et finalement, on conclut avec la 4e coupe, la coupe de Hallel. Mais c'est avec la première coupe qu'on offre ses actions de grâce au Dieu Tout-Puissant, Roi de l'Univers, en disant « Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagefen, amen ». Et on peut le dire ensemble, cette bénédiction. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers. C'est une des prières les plus anciennes. C'est Dieu qui crée le fruit de la vigne dans l'esprit de l'Israélite primitif de l'Antiquité. Il ne comprenait pas ce processus que l'on appelle aujourd'hui fermentation. Et donc, il disait que cette transformation appartient quelque part à Dieu. C'est lui qui crée ce vin de ce jus de fruit. C'est lui, le créateur de l'univers, qui nous donne le don de ce vin. Donc, est-ce que les disciples ont hésité ce jour de la fête des noces de Cana, où ils étaient tous réunis, et ils venaient de rencontrer Jésus il y a quelques jours, ils le connaissaient à peine. Et après, en plein milieu de la fête, ils lèvent la coupe et ils disent « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers qui a créé le fruit de la vigne. » Il était là à côté d'eux dans la pièce. Jean, en écrivant cet évangile, plus tard, il était vieux déjà, il regardait en arrière, il a dit « C'était ça le moment. » C'était ça le moment qu'on savait, c'était pas un autre rabbin comme les autres. C'était à ce moment-là qu'on a vu sa gloire et on a cru en lui. Les enfants sont curieux parce que la maison est en ébullition, il y a la famille qui vient d'un peu partout et donc ils posent des questions. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Il dit en chantant « Manishtana laila haze mikol halelot shebechol halelut anu ochrin chametz umatza halaila haze kulo matza » Il va lire quatre questions traditionnelles qui sont dans la brochure que vous avez dedans et on va prendre le temps de répondre à chaque question. Mais la première question est peut-être la plus importante. La première question, c'est pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Tous les adultes qui sont à table sont obligés de répondre. Nous faisons cela parce que le Seigneur nous a libérés de la terre d'esclavage du pays d'Égypte avec son bras droit puissamment étendu vers moi, tout comme on l'a chanté ce matin. La rédemption est au cœur du message du salut. Mais la rédemption annonce beaucoup plus que le message du salut. La rédemption annonce les moyens de ce salut par l'agneau pascal. Nos ancêtres, dans leur hâte de quitter l'Égypte, ils ont pris un agneau d'un an, sans tache. Ils devaient le sacrifier d'une manière avec soin, c'est-à-dire qu'il fallait le sacrifier sans briser aucun de ses os. Et parce que les Juifs ont eu foi dans ce commandement divin, la dernière plaie, la mort du premier-né, leur fut épargnée grâce au sang, le sang de l'agneau pascal. Quel puissant acte de rédemption, n'est-ce pas? Mais encore plus puissant, c'est la rédemption qui devait venir à travers Jésus le Messie, parce que tout comme ces premiers agneaux n'ont eu aucun de leurs os brisés, Jésus, sur la croix, n'a eu aucun de ses os brisés. Et tout comme les Juifs ont appliqué le sang de l'agneau sur les portes de leur maison, ainsi nous sommes invités d'appliquer le sang de Jésus le Messie sur les linteaux de nos cœurs. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un veut, il peut m'ouvrir et je rentrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, je vais prendre le temps d'expliquer plein de choses, mais encore, on va répondre à ces questions qui sont dans la première question. Pourquoi mangeons-nous des pains azim? Nous répondons traditionnellement, nos ancêtres, dans leur hâte de quitter l'Égypte, n'ont pas pris le temps de faire lever la pâte. Alors, ici, nous avons comment est-ce qu'on appelle ça? Qu'est-ce qu'on décrit ça? C'est une pochette de matzah en lin, en tissu, et à l'intérieur, séparés les uns des autres, il y a trois morceaux de matzah. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est important que vous voyez tous. Vous voyez? Donc, ils sont tous séparés. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va prendre la matzah du milieu. Matzah veut dire pain azim. On va... c'est pas ça. Vous voyez, je confonds. Donc... Ah! Mince. Voilà, je vais ranger la troisième et je vais prendre la matzah du milieu. Les deux autres restent à l'intérieur, sauf s'il y a un accident comme celui-ci. Les deux autres restent à l'intérieur, on sort la matzah du milieu, on récite une prière très ancienne en araméen. Voici le pain d'affliction que nos ancêtres ont mangé en Égypte, on le brise en deux et on le met dans une pochette blanche ou une pochette bien décorée, on lui donne un nom spécifique, Afikomen. Vous pouvez répéter après moi? Encore une fois, Afikomen? Une dernière fois? Alors, plus important que le mot, le sens de ce mot, c'est celui ou ce qui vient plus tard. Et c'est exactement ce qu'il fait, on cache l'Afikomen. En général, c'est un jeu qu'on joue avec les enfants. Et ils passent la soirée à chercher un peu à droite et gauche où se trouve l'Afikomen. Et celui qui vient plus tard, c'est exactement ce qui va se passer. On va le manger après le repas. L'enfant pose d'autres questions. pourquoi mangeons-nous des herbes amères et pourquoi trempons-nous cela dans de l'eau salée? Ici, il y a un plateau. Chaque famille a un plateau de cèdre qui est décoré. Ça vient en différentes tailles et formes. Et donc, on va prendre le plateau du cèdre et on va mettre les aliments de Pessah. Premièrement, avec du karpas. Karpas, par sa couleur bien verte, symbolise la vie. Et nous prenons la vie et nous le trempons dans de l'eau salée qui représente les larmes de la vie. Et ainsi, en trempant avant de manger, nous nous souvenons qu'une vie sans rédemption est une vie noyée de larmes. Ici, nous avons la racine de l'herbe amère. On peut utiliser un radis noir, un oignon, et ça nous rappelle que la racine de la vie est souvent amère, comme elle était pour les esclaves en Égypte, comme elle est actuellement pour 134 otages à Gaza, qui sont doublement otages, mais Jésus est venu pour libérer les captifs, n'est-ce pas? Et nous prions qu'il se révèle à eux dans leur donjon. Ici, nous avons encore un autre herbe amère, qui est la racine écrasée en purée et épicée. Ça devient du réfort. Vous connaissez ça? Ouais. On est censé prendre une cuillerée, une bouchée pleine de réfort. Est-ce qu'il y a des bénévoles, des volontaires qui veulent, non? Qu'est-ce qui se passe quand on prend une cuillère pleine de réfort? Plein de choses, vous allez me dire. Alors, exactement, on est censé pleurer et nous rappeler des larmes des Juifs en Égypte. Finalement, nous avons à chaque table, il y a la recette charoset. Et charoset veut dire en hébreu ciment ou mortier. Ça représente la boue que les Juifs ont utilisé pour faire les briques pour Pharaon. Alors, il y a plein de recettes. Certaines utilisent des dattes, des figues. On mélange du miel, du vin dû, la cannelle, noisettes, des noix. Et ça devient genre de pâte brunie, brune. Et un disciple a posé la question à son rabbin, pourquoi un mélange si doux reflète un labeur si dur? Et la réponse était, même le plus dur des labeurs était adouci par la promesse de Dieu, par les promesses de rédemption. Ceci n'est pas un œuf de Pâques, c'est un chagiga. Une chagiga, le sacrifice, un sacrifice spécial donné dans le temple à l'époque de Jésus, à la Pâque. Et cela nous rappelle, donc normalement il est rôti, bouilli, ça nous rappelle que le temple fut détruit par les flammes en 70 par les légions de Titus, le général romain. Et depuis, on n'a plus de sacrifices, on n'a plus d'autel, et tout ce qu'on a, c'est ce symbole de ces sacrifices qui ne peuvent plus être offerts. Et chaque table de Pâques, chaque famille dans le monde entier a cela, zroa, la pâte d'os de l'agneau. Alors, à Pâques, on ne sert plus d'agneau, comme la Bible nous le demande. Vous vous rappelez de prendre l'agneau, le rôtir en entier, le manger pour que rien ne reste. On ne fait plus ça dans les familles juives du monde entier. On n'a plus d'agneau pascal à table. Pourtant, le repas de Pâques s'appelait à une autre époque la fête des agneaux pascal. Mais aujourd'hui, on n'a que ce zroa, cette pâte d'os d'agneau. Pourquoi? Parce que le temple fut détruit. On ne peut plus sacrifier son temple. Ce qui relève une autre difficulté. Sans sacrifice, comment est-il possible d'expier les péchés aujourd'hui? Eh bien, ça relève l'importance de ce que Jean le Baptiste a dit quand il a vu Jésus sur les rives du Jourdain. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il n'a pas dit ça pour nourrir nos cantiques, mais les gens qui entendaient les agneaux de Dieu, les agneaux appartenant à Dieu, c'était les agneaux qui étaient voués au sacrifice. Et voilà la réponse à la question, à la difficulté. Non pas par une multitude des sacrifices qui ne peuvent plus être offerts, mais par le sacrifice d'un seul, Jésus le Messie, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Après cela, on lève la deuxième coupe, la coupe des plaies, kosmakot. Quel est le symbole d'une coupe pleine? D'ailleurs, on doit remplir chaque coupe pour qu'elle déborde. Comme disent les psaumes, ma coupe déborde de joie. Mais pour cette coupe, on va enlever plusieurs gouttes pour dire que nos cœurs ne sont pas remplis de joie symboliquement. On se souvient des souffrances des Égyptiens. On se souvient de la destruction du temple. Et on se souvient que le peuple juif est encore en souffrance aujourd'hui. Donc c'est un moment de sobriété et un moment de réflexion sur notre histoire. Mais avant de passer à table, on se souvient qu'aujourd'hui, on est en Zman Chérouteinu, on dit, le temps de notre liberté, le temps de se réjouir. Donc, on va passer à table et on va s'asseoir avec des tantes, des oncles, des cousins, des cousines qui viennent de loin et de près, des gens que vous avez voulu voir depuis un an, des gens que vous avez souhaité qu'ils ne viennent pas, viennent quand même. Et c'est le moment de partager la Pâque. Et on est sur quelle coupe? Vous vous rappelez? Deuxième. Après le repas, on revient à la troisième coupe. Et donc, c'est le point culminant. On appelle cette coupe en hébreu « Kos Yeshuot », la coupe du salut, la coupe des rédemptions. « Kos Yeshuot ». Vous connaissez le nom de Jésus en hébreu? Vous voyez, vous entendez? « Yeshuot », c'est la coupe du salut, la coupe qui porte le nom « Yeshua ». Mais avant de prendre cette coupe, il nous faut faire quelque chose d'abord. Quelque chose qui a été sorti de cette pochette. Le deuxième matzah, la matzah du milieu, mis dans un lin blanc, caché, doit être maintenant ramené à table. Il s'agit de quoi? Comment? La ficomène, très bien. Vous vous rappelez ce que veut dire la ficomène? Celui qui vient plus tard. Une fois que la ficomène est retirée de sa pochette, il est enlevé de son lin blanc et après il est brisé en plusieurs morceaux de la taille d'une olive à peu près. Et la ficomène est pris ensemble avec la coupe de rédemption, la coupe de Yeshua. Oui, vous voyez? Mais je vois Jésus en beaucoup plus que cette tradition de la ficomène. Je crois que la matzah elle-même nous parle de Jésus d'une manière spécifique, n'est-ce pas? Les rabbins ont donné des règles pour que celle-ci soit convenable ou cachère pour Pessah. Premièrement, ça doit être du pain strictement, strictement non levé, qui est symbole d'une nature sans péché. Aussi, les rabbins disent que chaque matzah, morceau de matzah, doit être strié ou mis en lanière, marqué, comme vous la voyez. Cela me rappelle le prophète Ésaïe qui a dit « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». Et encore, les rabbins disent que chaque morceau de matzah doit être troué ou percé. Ce qui me rappelle le prophète Zacharie qui a dit, c'est « Nous tournerons nos regards vers celui que nous avons percé ». N'est-ce pas? Mais quel est ce mystérieux 3 en 1? Les rabbins disent que c'est Abraham, Isaac et Jacob. Alors pourquoi est-ce que la matzah du milieu est-elle retirée, brisée, mise dans un lin blanc et puis ramenée à table? D'autres rabbins disent que c'est la division du peuple israélite dans l'Antiquité, à savoir les Lévites, les prêtres et le peuple d'Israël. Alors pourquoi encore est-ce que la matzah du milieu est-elle retirée, brisée? Et il y a d'autres explications, mais aucune d'elles ne répond à cette question. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Les trois forment un genre de tri, unité. Il y a un mot en hébreu qui décrit une telle unité, ce mot c'est « Echad ». Et « Echad » c'est le mot qui est utilisé quand toutes les tribus d'Israël se réunissaient à Jérusalem pour louer l'Éternel. Ils étaient décrits comme un seul peuple, « Am Echad ». Ou encore, quand l'homme quitte sa famille et les deux deviennent qu'une seule chair, encore en hébreu le mot c'est « Bessar Echad ». Et c'est le même mot que Moïse utilise. Il aurait pu choisir un autre mot. Mais il a choisi ce mot, Echad, pour dire Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, décrivant le caractère unique, l'unicité de Dieu. Il a dit Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est Echad, un. Je crois que cette pochette de matzah porte témoignage d'un seul Dieu révélé en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi la matzah du milieu est-elle retirée, brisée, mise dans un lin blanc, cachée, puis ramenée à table? Parce que Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair. Il a vécu une vie parfaite, sainte, exemplaire. Sa chair était pure et sa chair a été brisée, percée, meurtrie. Et trois jours après sa résurrection, il a été enseveli, mis dans un lin blanc. Jésus a dit, « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Les rabbins disent que la troisième coupe, la coupe de rédemption, doit être remplie de vin rouge pour nous rappeler ce premier agneau immolé, pour nous laisser sortir du pays d'Égypte. C'est la coupe prise après le repas, n'est-ce pas? Peut-être que vous voulez relire Luc 22 plus tard. C'est cette coupe après le repas que Jésus a pris. Il a dit, voici la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. De quelle nouvelle alliance parlait-il? Eh bien, Jérémie le prophète a dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je conclurai avec Israël une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoique j'étais pour eux comme un époux. Mais voici l'alliance que je traiterai avec eux ces jours-ci. Après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Les Juifs dans le monde entier vont prendre ce matzah et ce afikoman, celui qui vient après, en souvenir de ce premier agneau. Mais nous avons le privilège ce matin de le prendre en souvenir de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire après tout cela? Louer l'Éternel. Hallel, ce couple de louanges. Vous connaissez ce mot Hallel, Hallelujah. Vous louez l'Éternel. On chante un hymne du psaume 113 au psaume 118. Et si vous imaginez que Jésus et les disciples ont chanté un hymne devant l'Éternel avant d'aller au jardin de Gethsémané, c'est écrit dans l'Évangile, c'est ce psaume de 113 au psaume 118. Donc on a mis une petite lecture alternée, je me suis dit qu'on peut conclure par la lecture de celui-ci. Si vous voulez bien lire en gras, et moi je dirais le reste. Louez l'Éternel car il est bon, car sa bonté dure à toujours. L'Éternel. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle que les justes entrent. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. C'est chouette de penser que les derniers versets que Jésus et les disciples ont chantés avant la croix, il y a des passages là-dedans très encourageants, comme « Attacher la victime au corps de l'autel ». Précieux aux yeux de l'Éternel est la mort de son saint. Anna Adonai Hoshiana, Seigneur, sauve maintenant. Il y a une dernière coupe dont je ne vous ai pas parlé, c'est la coupe d'Élie le prophète. Il y a une place prévue, un couvert et une assiette dont personne ne touche, personne ne boit, réservée à Élie le prophète. Et à ce moment-là, la personne la plus jeune va aller à la porte, l'ouvrir en grand, espérant y voir Élie le prophète. Pour qu'il vienne et il annonce la venue du Messie. Pourquoi cette attente pour Élie? Eh bien, le dernier verset de l'Ancien Testament, c'est écrit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant ce grand dernier jour terrible de l'Éternel. Il préparera le chemin de l'Éternel. Il tournera les cœurs des pères vers les enfants et les cœurs des enfants envers les pères. » Les disciples ont demandé à Jésus, « Pourquoi disent-ils que Élie doit premièrement venir ?» Jésus a dit, « Si vous pouvez l'accepter, c'est Jean l'Élie. » À venir. On chante un chant, Élie de Gilead, de Tisbé, viens bientôt et dans nos jours et amène avec toi le Messie, le fils de David. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu, Eliyahu. Eliyahu Agiladi, Bimherav Yamenu, Yavo Elenu, Im Mashiach Ben David, Im Mashiach Ben David, Eliyahu Hanavi. Je ne dis pas le Shana Haba Yerushalayim, c'est le dernier mot de ce Pessah, l'an prochain à Jérusalem. cette année, on ne l'a pas vu venir, peut-être l'année prochaine. Moi, je dis Maranatha, le Seigneur vient, nul doute. Les promesses de Dieu envers vous, envers moi, sont oui et amen. Frères et sœurs, c'était un privilège de partager cette Pâque avec vous. Pour moi, c'était un privilège. Mais Jésus, lors de son repas avec les disciples, a dit, j'ai ardemment désiré partager cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'ai ardemment désiré partager cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'espère que vous comprenez pourquoi le Seigneur s'est senti de cette manière-là ces derniers jours sur la terre. En fait, la parole nous dit que Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et tout comme il a ardemment désiré partager la Pâque avec les disciples, il désire ce matin partager ce pain et ce vin avec vous. Il désire partager ce pain et ce vin avec vous. Il frappe. Il est à la porte. Est-ce que vous voulez vous ouvrir vos cœurs? Bien sûr, ce n'est pas quelque chose à prendre légèrement. C'était bizarre pour les disciples de partager ce repas et dire que pour la première fois, ils ne commémoraient pas ce pain et ce vin en souvenir de l'agneau, mais en souvenir de ce que Jésus n'avait pas encore fait. Voyez-vous que Pâques fait partie de notre identité en tant que juifs. Nous sommes devenus juifs à Pâques. Nous sommes devenus son peuple à Pâques. Notre centre identitaire vient de là. D'où vient votre centre identitaire? Est-ce que ça vient de l'Helvétie? Comment est-ce que vous vivez vos vies? Quel ordre ou chenille donnez-vous à votre vie et pourquoi? Pourquoi? Jésus nous invite à ce que notre centre, dorénavant, ne soit autre chose que lui. Leçon difficile pour nous, juifs, à apprendre, pour moi en particulier. Que mon identité dorénavant ne compte pas sur mon identité juive, mais mon identité juive en Christ. Donc, je sais que souvent on dit qu'il ne faut pas prendre ce repas d'une manière indigne. Et c'est vrai. Mais la question là vraiment est de dire, c'est un moment de grâce et de pardon. Et ne laissez pas ce moment passer au-dessus de vous. Saisissez cette grâce que Jésus vous offre aujourd'hui. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner. Il suffit de demander ce pardon. Il suffit d'ouvrir la porte. Il suffit d'accepter cette invitation qu'il vous offre avec ardeur. Il désire partager cette Pâque avec vous ce matin.